L'œil politique passe à la loupe les grandes questions actuelles. Témoignages, opinions, analyses. L'équipe vous retrouve le dernier samedi du mois, de midi à 13h, pour penser les enjeux politiques qui agitent la société. L'œil politique, c'est tout de suite sur Prune.
Bonjour chers auditeurs, on se retrouve pour le quatrième épisode de L'œil politique, votre émission critique et engagée qui décrypte les grandes questions politiques et d'actualité tous les derniers samedis du mois. Je suis Seb et j'ai l'honneur d'animer pour la première fois cette émission. Je suis accompagné aujourd'hui de Louise, Adeline et Quentin. Bonjour à vous.
Bonjour.
Bonjour.
Une petite pensée également pour Yelena et Camilla qui n'ont pas pu être présentes en studio. Nous serons ensemble jusqu'à 13h. Aujourd'hui nous sommes le samedi 25 février et il pleut depuis maintenant 3 jours. Alors si je dis ça, c'est parce que c'est une bonne nouvelle. En effet, ça faisait un mois qu'il n'avait pas plu en France. Moins de 7 mm de flotte en un mois. 7 mm. Ah, c'est sûr qu'on est plus proche de la flaque d'eau que de la méga bassine. Hein. Les nappes phréatiques sont au plus bas, ça fait craindre le pire pour l'été. Sachant que certains départements sont en alerte sécheresse depuis juin dernier. Ah, mais on me dit dans l'oreillette que Louise va nous en parler dans quelques minutes, je ne vais donc pas trop m'attarder sur le sujet. Mais parlons encore un peu climat. Jeudi, trois associations, les Amis de la Terre, Oxfam et Notre Affaire à tous, ont attaqué BNP Paribas en justice dans le but d'obliger le groupe à mettre fin à ses soutiens financiers aux projets d'énergie fossile. C'est dans ce timing parfait que le ministre de la Transition écologique, qui n'a visiblement toujours pas pris connaissance de sa fiche de poste, a choisi de déclarer qu'il fallait se préparer à vivre avec une température de plus de 4 degrés en France. C'est clairement un aveu d'inaction climatique. Mais après tout, c'est plutôt cohérent tout ça. Elle est précaire, de toute façon on s'en tape du réchauffement climatique et de bosser jusqu'à 64 ans, nous on a la clim dans nos bureaux. D'ailleurs, Macron s'est exprimé cette semaine pour dire qu'il trouvait légitime la mobilisation contre la réforme des retraites. Mais que ça serait quand même sympa si elle pouvait se faire de façon à laisser les gens travailler. Éric Woerth a aussi déclaré qu'il trouvait contre-productif de bloquer le pays et que la justice sociale passait par l'adoption de cette réforme. On n'attendait pas moins de celui qui avait déjà fait reculer l'âge de la retraite de 60 à 62 ans sous Sarkozy. Alors désolé les gars, mais vos conseils en matière de lutte sociale, on va bien s'en passer. Bref, venons-en au sommaire de cette émission, puisque nous recevons aujourd'hui Juliette Radepont,
bonjour,
porte-parole d'Attaque Loire-Atlantique, et Quentin Desmousseau,
bonjour,
secrétaire du bureau de l'Union syndicale de la CGT en Loire-Atlantique, pour parler des mobilisations et des formes que peuvent prendre les mouvements sociaux. Ça sera dans le grand entretien avec Adeline et Quentin. Il y aura également le billet d'humeur de Camilla, qui nous parlera des déboires d'Olivier Dussault englués dans la bataille des chiffres. Mais tout de suite, comme promis, c'est la carte blanche de Louise.
L'équipe de l'émission pose son regard sur l'actu dans ses cartes blanches.
Il pleure dans mon cœur comme il pleut sur la ville. Quelle est cette langueur qui pénètre mon cœur ? Bon, si Verlaine écrivait aujourd'hui, il aurait bien moins d'inspi pour exprimer sa mélancolie. Parce que la pluie, ça fait quand même un sacré moment qu'on l'a pas senti. Depuis le 21 janvier exactement. Je suis pas très bonne en calcul, mais il me semble que ça fait longtemps. Ô bruit doux de la pluie par terre et sur les toits, pour un cœur qui s'ennuie, ô le chant de la pluie. Si on m'avait dit un jour qu'ouvrir mes volets et voir un ciel bleu augmenterait mon niveau d'éco-anxiété, franchement j'aurais rigolé. Mais là les gars, faut voir les choses en face, on est mal barré. Plus d'un mois sans véritable épisode de pluie, ce qui est un peu chaud, c'est que normalement février c'est plutôt la période où les nappes phréatiques elles vivent leur meilleure vie et elles rechargent leur batterie. Et là, elles font un peu la gueule, donc moi je commence doucement à paniquer. Je suis à deux doigts de me mettre à faire des rites vaudous et à danser tous les soirs sur ma terrasse avant d'aller me coucher en espérant qu'un peu d'eau décide de tomber du ciel. Ô bruit doux de la pluie par terre et sur les toits, pour un cœur qui s'ennuie, ô le chant de la pluie. Il pleure sans raison dans ce cœur qui s'écœure, quoi, nulle trahison, ce deuil est sans raison. Moi je veux pas faire le deuil de la flaque énorme devant chez moi parce que j'habite dans une rue en pente. Je veux pas faire le deuil de l'odeur du béton mouillé. Je veux pas faire le deuil de la joie d'arriver complètement trempée dans un bâtiment chauffé. Je crois que là je m'égare un peu. Donc je disais, je commence à légèrement paniquer, mais je crois que vous l'aurez remarqué. Et quand je panique, je vais sur YouTube et je bois du café. Chacun ses méthodes, je vous permets pas de juger. Donc après avoir bu 3 cafetières et demie et regardé 52 vidéos de Squeezie, je suis retombée sur ce court-métrage « Né de la dernière pluie ». Ce court-métrage de Pierre Hilaret a été réalisé dans le cadre du 48 heures Film Project 2022. Le principe de ce concours, c'est d'écrire, tourner et monter un film d'une petite dizaine de minutes entre le vendredi soir et le dimanche soir. d'où le 48 heures si vous avez bien suivi. Et ce film était, et je pèse mes mots, super méga giga cool sa mère, comme disent les jeunes. Alternant prise de vue réelle et animation, le film débute sur un groupe de jeunes gens à l'air sympathique qui essaient de s'imaginer ce qu'était la pluie, ce vaste concept météo d'un temps passé.
Voilà, c'est ça. C'est ça le bruit. Je m'en souviens comme si c'était hier. J'étais petite et j'étais au chaud sous ma couette. Et tout à coup, je l'ai entendu sur ma fenêtre.
Et ça tombait du ciel, c'est ça?
Ouais.
Et vous voyez d'où ça venait?
Oui, des nuages.
Mais un homme est sceptique, reste hermétique à ce qu'il est en train de se passer. Cet homme est né de la dernière pluie. C'était il y a 30 ans. Ce court-métrage m'a marqué bien plus que je l'aurais imaginé. Ce film, avant de le voir sur YouTube, je l'ai d'abord vu à la remise des prix du festival, début janvier. Et ce jour-là, bah, il pleuvait. Je me rappelle avoir été extrêmement touchée par la justesse et la poésie de ce film, et surtout son message simple, qui réside en un mot, croire. La terre, elle absorbe, c'est comme sa boisson. En attendant la pluie, je crois que de mon côté, je vais continuer à absorber toutes ces petites œuvres engagées qui laissent le droit de rêver. C'est bien la pire peine de ne savoir pourquoi, sans amour et sans haine, mon cœur a de la peine. Moi aussi, Verlaine, mon cœur, il a un petit peu de la peine. Mais mon cœur s'est adouci en voyant cette potion magique composée d'une caméra, d'un peu d'humour et de poésie. En attendant la pluie, je vais retourner dans mon lit, continuer à suivre ces gens qui m'inspirent et me font sourire. Je pourrais faire une ode complète au 48 heures Film Project, qui est un concours rempli de personnes talentueuses, bienveillantes, qui méritent mille fois plus de visibilité tellement leur travail est giga chouette. Alors je vous invite à aller voir le travail de Pink Swap Productions et de tous leurs copains.
Bien, merci Louise pour cette carte blanche très émouvante. On se retrouve après une petite pause musicale. Nous allons écouter Paul Dance des Vulva Assassins, un groupe que l'on aime beaucoup ici.
Tu réussis comme tu restes.
De retour sur Prune 92 FM pour l'émission L'œil politique. Aujourd'hui, nous parlons des mobilisations. Comment les faire vivre? Quelle place ont-elles dans la société? Nos invités répondent aux questions d'Adeline et Quentin. C'est la première partie du grand entretien.
C'est l'heure de l'interview. Place à nos invités pour analyser la question politique de l'émission.
Le 19 janvier dernier, la lutte contre la réforme des retraites débutait. Avec plus de 2 millions de Français et Françaises dans les rues, le pays connaît sa plus forte mobilisation depuis les 30 dernières années. Lors de la deuxième journée, c'est plus de 2,5 millions de personnes mobilisées qui descendent dans la rue. Dès ces deux premières manifestations, les chiffres égalent la plus forte mobilisation de 1995, année référence pour l'intersyndicale. En effet, 95, c'est l'année qui voit le mouvement syndical gagner et la réforme Juppé retirée. Les mobilisations ont été cependant accompagnées par 3 semaines de grève générale. Le 7 mars prochain, les syndicats appellent à mettre la France à l'arrêt. Ça y est, le 7 mars, on rentre dans le dur de la mobilisation, selon vous, Quentin Desmousseaux et Juliette Ratpon.
J'espère qu'on va rentrer dans un mouvement plus dur que ce qu'on a vu aujourd'hui, parce que malheureusement, on voit que malgré les fortes mobilisations qu'il y a pu y avoir, les chiffres viennent d'être dits, les arguments politiques et financiers également mis sur la table, on voit malgré cela un gouvernement qui reste sourd et dans l'impasse et sur sa ligne depuis le départ et qui refuse d'écouter les travailleurs et les citoyens mobilisés. Et donc aujourd'hui, une des issues que l'on estime, avoir ce type de mobilisation, comme ça a été le cas en 95 et qui a amené à un retrait du projet.
Alors... Oui, et puis juste pour rajouter, on peut aussi regarder certains sondages d'opinion qui sont toujours très très favorables à ce type de mobilisation, même mettre la France à l'arrêt. Recueille actuellement 67% des suffrages des sondés, tout parti confondu. Donc on peut imaginer que le 7 mars puisse y avoir un réel blocage qui puisse durer, parce que le mécontentement est partagé et les arguments contre cette réforme sont légitimes et les gens le reconnaissent, ce qui est une bonne chose.
Alors, après un peu plus d'un mois de mobilisation et 5 journées d'action et avant cette grève générale, quel premier bilan tirez-vous de ces rassemblements, Quentin ?
Alors, d'un point de vue de la CGT, on en tire un bilan positif sur l'organisation de la CGT, sur le dialogue avec les autres syndicats également, sur le dialogue avec les autres organisations, comme ATTAC par exemple, présent aujourd'hui. On voit un taux de syndicalisation qui est nettement en hausse par rapport à la syndicalisation qu'on pouvait avoir ces dernières années. Donc pour nous, c'est positif et au-delà de ça, c'est aussi sur la conscience politique et aussi sur le fait que les travailleurs et les citoyens se réintéressent à leur situation sociale d'un point de vue organisation, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est que la retraite, comment ça fonctionne une cotisation, etc.
Concrètement, à quoi peut-on s'attendre de cette masse? Avez-vous déjà des premiers retours de secteurs mobilisés sur cette action, Juliette?
Eh bien, on le voit en manifestation, par exemple, toutes sortes de personnes viennent marcher dans la rue aux côtés des syndicats et des organisations citoyennes comme ATTAC. Mais aussi, on le voit dans les événements qu'on organise. Depuis quelques semaines, ATTAC et plein d'autres organisations ou même individus mettent en place des ateliers, des projections pour permettre aux personnes qui le souhaitent de s'informer, de comprendre ce qu'il se passe, parce que ce sujet-là des retraites est très complexe et cette réforme donne lieu à tout un tas d'argumentaires qu'on a du mal à saisir et c'est bien normal, c'est aussi une stratégie politique de perdre les citoyens et citoyennes dans les méandres de considérations économico-politiques réservée aux experts et aux expertes. Et nous, notre rôle à ATTAC, c'est de démystifier tout ça. Donc, on organise, comme je disais, des projections, des ateliers et les événements font salle comble. Les gens sont présents, ils ont envie de comprendre, ils s'intéressent. Et nous, on on est content de pouvoir expliciter cette réforme qui s'avère difficile à comprendre.
Malgré les fortes mobilisations et l'adhésion d'une très large majorité de la population, vous rappelez les chiffres, Juliette, en introduction, il semble que les manifestations ne suffisent plus et qu'il faille une grève générale pour peut-être se faire enfin entendre. Est-ce que c'est plutôt un phénomène sociétal, selon vous, ou est-ce que c'est plutôt lié au gouvernement actuel ?
Ah, c'est une vaste question. Je pense qu'il n'y a pas de réponse, réponse claire. Ce qu'on peut par contre observer, c'est les faits historiques. Et il est vrai qu'il n'y a pas eu de victoire avec seulement des manifestations, il me semble, dans l'histoire de ces 60 dernières années. Donc les manifestations, si surtout en ce moment, elles ne sont pas écoutées et prises en compte par un gouvernement qui continue tête baissée, vont devoir donner lieu à un blocage plus sévère. Et c'est la stratégie des syndicats et c'est la chose à faire.
Quand on a un avis sur la question.
Oui, bah, ça vient d'être dit. Hein, ça n'a rarement, voire jamais été par le simple fait d'une manifestation. Comme on le dit souvent, la CGT, c'est une histoire de rapport de force. Là, aujourd'hui, le rapport de force, il va se jouer, selon nous, sur le plan économique et le moyen de toucher l'économie la grande classe bourgeoise qui dirige l'économie. Hein, c'est bien sûr d'impacter son économie et ce qui fait rentrer de l'argent. Et d'ailleurs, ce qui est un fait assez intéressant, je trouve, parce que je pense qu'il est assez historique, c'est qu'on a des syndicats de petits patrons, d'artisans, qui commencent à appeler également à rejoindre les mouvements sociaux. Parce que eux aussi, cette réforme-là, ils n'en veulent pas, parce qu'ils vont être également impactés, non seulement à titre personnel, mais je ne pense pas qu'un couvreur ait envie d'avoir des salariés de 64 ans. Quand on connaît la panoplie des métiers difficiles, je pense qu'ils ont toutes les personnes qui sont impactées de près ou de loin par cette réforme auraient intérêt à appeler à un blocage de l'économie pour que le retrait se fasse au plus vite, quoi.
Comme on le disait, la mobilisation est dure depuis un peu plus d'un mois maintenant. Elle semble s'inscrire donc dans le temps. Comment on réussit à garder les travailleurs et les travailleuses mobilisés ?
Quand on a la chance d'avoir des syndicats organisés dans les entreprises, il y a un travail de fond qui est fait, un travail quotidien d'information. On organise des assemblées générales, des informations syndicales, on envoie des infos donc par le biais du travail. On fait du terrain. Quand on est dans les entreprises syndicalistes ou élus, on va à la rencontre des salariés. Ça a été dit tout à l'heure, il y a tout un tas d'initiatives qui sont organisées soit par les syndicats, soit par les associations ou ONG. Style des projections qui vont questionner, par exemple, sur la sociale, ça va questionner la grève générale, ça va questionner toutes ces questions-là. Ça permet de faire du lien entre les citoyens, les travailleurs, la jeunesse également, et puis de garder à l'esprit que faut pas lâcher l'affaire et faut surtout pas se reposer en fait en croyant que c'est passé ou que c'est pas si grave si ça passe, quoi.
Un enjeu majeur pour gagner contre la réforme des retraites est la mobilisation de la jeunesse. Et comment réussir à mobiliser alors que la retraite peut sembler être un enjeu lointain pour elle. Et d'autant plus que beaucoup sont obligés d'enchaîner les études avec les jobs étudiants, et ce qui peut être compliqué pour leur mobilisation.
C'est vrai, c'est une vraie question. C'est une question qui traverse la CGT depuis longtemps, hein. pas qu'aujourd'hui, elle se pose encore plus aujourd'hui parce qu'on est dans une mobilisation historique. Alors il y a des mobilisations, des mouvements qui existent actuellement chez les étudiants et les lycéens. Donc on a des passerelles qui se font, qui étaient un peu perdues, mais qui se font très bien. D'ailleurs, il y a une assemblée générale étudiante qui va avoir lieu dans les locaux de la CGT la semaine prochaine. Donc c'est bien pour dire que ce lien-là, il est fait, il est important. Au niveau du syndicat, on se questionne sur comment permettre aux étudiants et aux lycéens de se structurer et pour nous de leur ramener cet intérêt pour la question sociale en fait et leurs conditions de travail futures à venir ou actuelles, parce que c'est vrai que la plupart des étudiants aujourd'hui, pour pouvoir poursuivre leurs études, ils sont obligés de travailler. Donc déjà, rien que ce fait-là, il pourrait déjà s'indiquer au sein de la CGT. Et après, pour tout le reste, ça, c'est ultra nécessaire de faire le lien, effectivement, avec
justement,
avec
sur cette précarité étudiante, que ce soit ATAC ou la CGT, comment vous, vous travaillez dessus ?
Bien, c'est un sujet qu'on essaye de creuser aussi de notre côté. On a une initiative au niveau national qui s'appelle ATAC Campus, qui était assez active à Nantes il y a quelques années. Aujourd'hui, je crois que ça s'est un petit peu perdu, mais ça n'empêche pas les jeunes de s'auto-organiser voilà, sans que ce soit forcément ATAC. Mais je sais que dans d'autres coins de France, par exemple à Paris, ATAC en fait, mobilise des jeunes qui sont en études. Plutôt, c'est des jeunes qui se mobilisent au sein d'ATAC et qui organisent donc des choses au sein de leur campus en utilisant les outils ATAC. Donc les outils ATAC, on essaye au maximum que ce soit en format éducation populaire, donc de vulgarisation, on va dire, scientifique sur, donc, comme je le disais, ces sujets économico-politiques parfois complexes. Et pour ça, il y a toutes sortes d'outils. Et par exemple, lors de nos manifestations à Nantes, on a distribué un format A4 de petites BD en forme de manga. Qui explique bien à quel point cette jeunesse-là est ultra concernée par la réforme en cours, du fait justement de travail haché, temps partiel, qui est fortement pénalisé par le projet de réforme présenté. Typiquement, cette bande dessinée-là, elle va être facilement lue par des jeunes qu'on croise dans la rue, qui ne sont pas forcément dans la manifestation, mais qui vont se dire « Ah tiens, une BD, c'est plus facile à lire qu'un tract ou qu'un long texte. » Des fois, il suffit juste de ça. Un moyen de communication un peu plus accessible pour intéresser certaines parties de la population.
C'est juste, notamment, on parlait donc des lycéens. Elle a suivi ces dernières années plusieurs réformes, que ce soit le bac, que ce soit Parcoursup, et elle n'est pas vraiment écoutée non plus sur les questions environnementales, alors que c'est une question majeure pour ces générations-là. Est-ce qu'il n'y a pas cette peur d'avoir une jeunesse désenchantée qui n'est pas écoutée par le gouvernement et qui, du coup, se démobilise un peu ?
C'est un risque, c'est sûr. Il est peut-être encore plus important chez la jeunesse aujourd'hui. Il est aussi présent chez les citoyens. C'est vrai que quand on n'est plus porteur d'espoir et que ça soit la politique ou les différentes organisations, on n'arrive pas à porter cet espoir. La mobilisation, on voit bien, elle est difficile à mettre en œuvre. Après, je pense que il y a une prise de conscience qu'en fait il existe des outils. Il existe des outils et que sont les associations ou les syndicats, et que le fait de recréer des collectifs et de ramener un rapport de force pour se faire écouter et de bien comprendre les leviers en fait qui vont nous permettre de soit changer une loi, soit mettre en place telle ou telle structure ou aide sociale quand on en a besoin, ça fonctionne quand on se mobilise et qu'on se met en mouvement en fait, et que je pense que ça c'est l'enjeu un peu sur la jeunesse, effectivement, par rapport et à la question sociale et à la question environnementale.
Concrètement, comment on fait appui sur le gouvernement quand on est au chômage, mais aussi étudiant, et quand on ne produit pas directement de la richesse? Est-ce que cette partie de la population est entendue par le gouvernement ?
Je pense qu'elle n'est pas entendue du tout par le gouvernement, malheureusement. Aujourd'hui, elle a la possibilité de participer et de s'inscrire dans un mouvement. Effectivement, on pèse moins dur dans l'économie quand on n'est pas directement, quand on ne travaille pas sur la production, etc. Mais on a des leviers autres, c'est-à-dire on peut participer à toute la solidarité qui permet aux travailleurs qui vont impacter l'économie, par exemple, de eux avoir un impact. On peut avoir participé à la vulgarisation de questions sociétales ou sociales, etc. etc.
Et comme on l'a un peu dit tout à l'heure, aller sur le terrain aussi quand on a un peu de temps libre, par exemple quand on est au chômage, et c'est mon cas, c'est très important en fait, parce que en tractant, en allant sur les marchés, en organisant des ateliers ou des projections, on amène la discussion. Les gens ont toujours envie de s'exprimer quand on leur demande leur avis, et c'est ça qui peut parfois faire basculer une opinion ou faire en sorte que les personnes sympathisantes deviennent militantes et activistes. Il y a tout un tas de moyens de le faire à ATTAC, mais aussi dans plein d'autres associations. Même quand on n'a pas beaucoup de temps ou pas beaucoup d'argent, c'est possible de mettre la main à la pâte et de contribuer au débat et aux idées progressistes.
Alors, on entend souvent le slogan « fin du mois, fin du monde ». Les syndicats sont beaucoup associés au monde du travail. Est-ce que justement des organisations comme la TAN font cette conjonction entre social et écologie et peut-être attirent plus la jeunesse?
Oui. Les jeunes, ouais. En fait, justement, nous, notre mot d'ordre depuis déjà longtemps, c'est fin du monde, fin du mois, même combat. C'est important de ne pas dissocier les deux. Et c'est pour ça que on ne peut pas dissocier les combats écologiques des combats économiques. Le capitalisme est intimement lié avec la destruction de la planète. Et c'est pour ça que au niveau national, mais aussi local, nous avons des alliances interorganisations, qui consistent à lier ces deux sujets. Et aujourd'hui, on a l'Alliance écologique et sociale, qui s'appelait anciennement Plus jamais ça, qui s'est structurée autour de grandes propositions et qui a été fondée par exemple, ATTAC et CGT, mais aussi les Amis de la Terre, la Confédération paysanne, Greenpeace, Oxfam et les autres syndicats FSU et Solidaires. Et aujourd'hui, par exemple, en ce moment, on parle beaucoup des super profits qui, on pense, devraient être taxés pour financer les retraites, mais aussi la transition écologique. Donc, on continue d'appuyer là-dessus. Ça fait déjà depuis des mois, au niveau parlementaire aussi et au niveau local. Et au Parlement, au Sénat, pardon, il y a une pétition qui circule. Donc, si vous souhaitez la signer, vous regardez en ligne, taxe des super profits. Ça, c'est un levier aussi qui existe, la pétition. Mais sinon, c'est aussi concrètement de faire ces liens-là qui, effectivement, attirent la jeunesse, mais devraient attirer tout le monde, en fait.
Alors, une question pour Quentin. On a l'impression qu'il y a une évolution sur les questions écologiques à la CGT, notamment avec la lutte des raffineurs de Grand Puy contre les projets de Total. Ils s'étaient alliés avec des organisations environnementales. Est-ce que vous prenez la problématique écologique de plus en plus en compte?
Cette problématique, elle a toujours existé au sein de la CGT. Ça fait des années en fait qu'il y a des syndiqués et des syndicats qui traitent de cette question-là. Après, elle n'a pas toujours été majoritaire au sein de la CGT. On a effectivement eu des courants de pensée un peu plus productivistes pendant quelques années. La CGT, c'est un syndicat de travailleurs, donc en fait, elle est le reflet aussi de la société. Elle a des statuts, elle a des valeurs, des lignes directrices, mais elle est aussi le reflet de la société. Et aujourd'hui, on voit bien l'urgence environnementale. Je pense que plus personne la remet en cause. Et de ce fait-là, y a aussi un tas de salariés qui prennent conscience de l'urgence et qui prennent conscience aussi des leviers qu'ils ont entre les mains. Et aujourd'hui, quand on est dans le travailleur, peu importe que ça soit dans les raffineries, par exemple, ou d'autres secteurs d'activité qui sont polluants et très impactants pour l'environnement, on a aussi envie, on a quand même envie que l'avenir de ses enfants soit quand même bon socialement et environnementalement parlant. Et donc, il y a cette prise de conscience. Et du coup, il y a des initiatives qui sont faites et portées par les syndicats. Et on travaille avec des associations comme ATTAC ou Greenpeace, dans le cadre de l'Alliance écologique et sociale, là, ce qui a été dit juste avant, pour travailler au cœur même des entreprises et remettre en cause les stratégies. Parce qu'on voit bien que les stratégies capitalistes, elles... elles influent à la fois sur les conditions sociales des travailleurs, où on les presse toujours plus et il y a de moins en moins. Et du coup, bah, des parents qui ont moins d'argent, c'est aussi des étudiants qui ont moins d'argent pour aller faire les études, on en parlait tout à l'heure. Mais c'est aussi des impacts plus forts pour l'environnement. Et nous, ce qu'on ne veut pas, c'est que ça soit du greenwashing. Et du coup, en étant à l'intérieur de l'entreprise, on a cette chance de pouvoir vraiment questionner les outils de production qui ont de l'impact. Et du coup, aujourd'hui, c'est quelque chose qui traverse la CGT dans toutes ces structures. Et tant mieux.
Nous arrivons déjà au milieu de l'entretien. Nous vous proposons une petite respiration musicale avec Make You Move du groupe Kemp Claude. Pour celles qui nous rejoignent, nous sommes sur Prune 92 FM dans l'œil politique. Nous retrouvons nos invités, Juliette Radepont, porte-parole d'Attaque Loire-Atlantique, et Quentin Desmousseaux, secrétaire du bureau de l'Union syndicale de la CGT en Loire-Atlantique. Pour échanger sur les mobilisations, tout de suite, c'est la deuxième partie du grand entretien.
Le 21 décembre dernier, une autre loi contre laquelle vous êtes mobilisés est entrée en vigueur. Il s'agit de la loi de l'assurance chômage. Il y a eu plusieurs actions de la part du comité CGT de travailleurs privés d'emploi et précaires avec des occupations de Pôle emploi notamment. La dernière a eu lieu ce lundi au Pôle emploi de Blain dans le département. Cependant, ces actions sont un peu passées sous silence. Comment faites-vous pour être mobilisés sur différents fronts aussi importants les uns que les autres, donc la réforme des retraites et là, la réforme de l'assurance chômage?
On essaye de rester mobilisé partout parce que la réforme des retraites, ça ne veut pas dire que le reste des sujets ne continue pas d'avancer malheureusement. Et le projet du gouvernement et des libéraux, il s'arrête pas, il continue sur tous les projets. Et puis la réforme de l'assurance chômage, elle est rentrée en application, elle a un certain nombre d'impacts. Elle est aussi directement liée à la retraite. Donc on a des actions militantes qui continuent d'exister et après c'est en fonction des syndiqués et des différents syndicats qui se mobilisent et qui font vivre ces actions militantes-là. Ouais.
Alors cette mobilisation contre la réforme des retraites, est-ce que c'est aussi pour les syndicats un moyen de se remettre dans le paysage français des contestations suite à la crise des gilets jaunes ou la crise de la SCNF pardon, à la fin 2022 qui se sont faites sans les syndicats.
Alors, je ne sais pas si c'est... nous, on ne le perçoit pas comme un moyen de se remettre en selle. On considère qu'on n'a jamais été absent, en fait. Si on fait l'histoire récente, la CGT, elle appelle régulièrement à la mobilisation. Après, il y a clairement une part de responsabilité de la CGT et des syndicats en général qui sont peut-être plus identifiés comme un moyen de réponse à des crises sociales. Mais y a aussi une partie de la société qui a repris conscience de ce que c'était qu'un syndicat, à quoi ça pouvait servir. Et que en fait, le fait de se fédérer entre travailleurs pour faire valoir ces revendications, ça pouvait fonctionner. Et tant mieux qu'il y ait cette prise de conscience-là aujourd'hui sur un sujet aussi essentiel que la retraite. Et après, considérant effectivement la crise des Gilets jaunes, elle a été très diverse. Je crois qu'elle est encore difficile à caractériser en termes de sociologie des participants. Elle a été très multiple. On a aujourd'hui aussi, encore, en fonction des lieux, on a beaucoup de Gilets jaunes qui se sont syndiqués, tant mieux. Et on a aussi beaucoup de manifestations ou d'événements qui sont conjointement, où il y a des appels communs. Aujourd'hui, voilà, on voit qu'on travaille ensemble.
On observe d'ailleurs une hausse de 50% des adhésions à la CGT, à la CFDT depuis janvier, le début de la mobilisation. Est-ce qu'on observe les mêmes dynamiques dans les associations comme ATTAC par exemple ? Est-ce que vous avez aussi un nombre d'adhésions qui augmente depuis le début de cette mobilisation ?
Alors, à ma connaissance, ce n'est pas directement lié au calendrier de la réforme des retraites. C'est sûr qu'on a quelques nouvelles adhésions là, depuis peu, mais c'est difficile à dire si c'est directement lié à ça. C'est sûr que l'actualité fait qu'on a plus de monde à nos événements, donc possiblement plus d'adhésions, oui. Après... on est quand même à avoir de nouvelles personnes qui se joignent à nous régulièrement chaque année. Donc c'est difficile à dire. On a à peu près 220 à peu près adhérents, je crois, sur le département, peut-être même plus, et de militants vraiment actifs. Alors ça dépend, ça fluctue. On est environ une vingtaine, une trentaine à organiser des choses. Mais voilà, c'est plus, vous voyez, un combat parmi d'autres sur lequel on se mobilise beaucoup. Et voilà.
Mais c'est plus lié au contexte social en général, plus qu'à la réforme des retraites en tant que telle.
Oui, c'est ça. Tu résumes bien ce que j'essaye de dire. Effectivement, en fait, cette réforme, évidemment, on l'a vu venir, on l'attendait. Mais comme vous l'avez dit tout à l'heure, il y a là aussi la réforme de l'assurance chômage. Différentes luttes qui ont été menées ces dernières années contre ces politiques néolibérales agressives se retrouvent à mener le combat contre des politiques qui arrivent tout en même temps. On a aussi la loi Darmanin sur l'immigration. Je les ai pas en tête, mais on a une suite de projets de loi et de lois qui sont passés ces dernières années et cette année à nouveau, qui font que c'est difficile de se mobiliser sur tout, en fait. Et c'est pour ça que les syndicats sont très importants, et on le voit aujourd'hui, c'est que les syndicats, ils sont partout. Alors que les citoyens et citoyennes mobilisés au sein de nos associations, eh bien, c'est des bénévoles. Et donc, on a un temps bénévole restreint. Il y en a qui travaillent, il y en a qui ont des enfants. Et donc, on a des possibilités de se mobiliser sur tous les fronts limitées. Même si on essaye d'être un peu partout, c'est compliqué. Donc, les syndicats sont très importants, en effet.
Si je peux compléter, les lois travail qui ont modifié en profondeur les droits syndicaux avec l'instauration des CSE, elles ont aussi permis aux gouvernements libéraux d'avoir moins d'opposition. Il y a moins de droits globalement offerts aux travailleurs pour pouvoir se travailler pour se défendre ou en tout cas porter leur projet de société et le faire valoir. Je voulais rajouter aussi en parallèle de toutes ces réformes qui arrivent, il y a des tentatives bien connues, comme là en ce moment il y a un accord national interprofessionnel sur le partage de la valeur ajoutée. Donc on va mettre le focus là-dessus, on va faire croire que c'est très bien, mais en fait dans le fond de cet accord-là, qui a été signée d'ailleurs par certains syndicats malheureusement, mais il n'y a pas de cotisation dans la plupart des choses qui sont proposées et qui du coup vont être mises en place. Et du coup, pas de cotisation, bah, c'est pas d'argent dans les caisses de retraite. Donc c'est un départ à la retraite plus lointain. C'est tout ce système-là et c'est tout ça qu'on essaye de faire reprendre conscience. Et que, voilà, y a des réformes qui sont ultra agressives et puis il y a aussi des accords un peu en sous-marin mais qui transforment la société en profondeur.
Les femmes seront le plus pénalisées par cette réforme. Pour de nombreuses raisons, la majorité des femmes doivent s'arrêter dans leur carrière pour des congés maternels ou encore ont des carrières plus courtes, travaillent souvent à temps partiel ou encore ont des salaires inférieurs. Comment les luttes féministes prennent davantage part aux mobilisations contre la réforme des retraites ?
Au sein des syndicats, il y a des comités femmes qui se mobilisent depuis des années et des années. Et au sein d'ATTAC, on a des spécialistes de la question qui travaillent notamment... Madame Marty qui travaille sur la question des retraites des femmes depuis 2003, donc c'est pas un sujet nouveau, et qui apporte ainsi des éléments factuels, scientifiques, au fait qu'effectivement les femmes depuis déjà longtemps sont pénalisées, même si leurs conditions de vie et de salaire et donc de retraite s'est légèrement améliorée depuis 50 ans. Là, depuis à peu près 30 ans, ça stagne. Il n'y a pas d'amélioration. Avec cette réforme, ça va diminuer. Voilà.
Et donc, comme on le disait, le 7 mars, c'est grève générale. Le jour suivant, le 8 mars, c'est la journée internationale de lutte pour les droits des femmes. Ce 8 mars sera donc d'autant plus symbolique. Préparez-vous une action spéciale pour interpeller le gouvernement et sensibiliser les citoyens à cette cause ?
Alors, pour la Loire Atlantique, il y a déjà au niveau des syndicats, il y a eu plusieurs appels qui ont déjà été faits. Il y aura très probablement des initiatives de différents syndicats d'entreprise. Et après, tout le monde appellera à rejoindre les mobilisations qui auront lieu sur Nantes ou Saint-Nazaire. Donc, je sais j'ai en tête un rassemblement, enfin un appel à manifestation à 10h30 le 8 pour rejoindre un rassemblement au miroir d'eau à midi avec un pique-nique convivial. Mmh. Et je crois qu'il y a une autre manifestation l'après-midi à 14h, il me semble.
Alors, 14h, je ne sais pas, mais il y en a une autre en fin de journée pour un rassemblement et une manifestation plus en fin de journée vers 17h30, 18h, qui vise à occuper la rue à un moment où il y a plus de monde qui sort de chez eux en soirée. Et cette journée-là, en fait, ces deux mobilisations à deux moments différents de la journée appellent à une grève générale des femmes aussi. Et quand on parle de grève féministe, ce n'est pas seulement donc le travail productif, mais c'est aussi le travail reproductif. Donc, c'est-à-dire tout ce qui échoue malheureusement aux femmes encore trop aujourd'hui dans les familles, c'est-à-dire les tâches ménagères, la garde des enfants. Je sais qu'il y a une garde pour enfants qui sera mise en place aussi durant cette journée-là. Donc, une cantine solidaire, enfin, énormément d'initiatives en fait pour mettre en lumière justement le travail invisible des femmes et faire en sorte qu'un maximum de femmes se mettent en grève ce jour-là, tel que ça a été le cas dans d'autres pays en Europe.
Pour conclure, cette mobilisation contre la réforme des retraites, n'est-ce pas plus largement le symptôme d'un rejet global de la société actuelle avec des inégalités toujours plus importantes ?
Je pense qu'on est effectivement, ça participe à un rejet global du système en place et du projet de société en fait qui est mis sur la table pour les citoyens, pour la jeunesse aujourd'hui. Voilà, les gilets jaunes, c'était déjà le cas, ça monte en tension toujours plus, et malheureusement on sort d'une période électorale qui n'est pas si lointaine, et malheureusement le projet qui est encore là, c'est le même, qui est là depuis malheureusement trop longtemps, et ça fait que participer à un rejet total de la société et de tout ce qui la compose, qu'elle soit bien ou pas bien, quoi.
Oui, après, c'est sûr que on constate quand même que quand il s'agit de droits un peu plus individuels, enfin concrets, tels que l'âge de départ à la retraite, il y a plus de mobilisation. Alors que, par exemple, quand on parle de destruction du climat, c'est parfois difficile de mobiliser une large partie de la population. Donc là, notre défi aujourd'hui, c'est de continuer en fait à montrer le lien entre tout ça, entre cette réforme des retraites, entre la destruction du climat. On n'en a pas, malheureusement, on n'a pas eu le temps d'en parler, mais il y a des liens, et l'assurance chômage. Et en fait, effectivement, c'est un combat pour nous philosophique. Il faut changer de société, il faut changer de façon de travailler, de façon d'avoir des loisirs. Et c'est un combat philosophique, en fait. Même si peut-être il y en a, quand ils vont se mobiliser, ils n'ont que l'âge de départ à la retraite en tête. Nous, on voit les choses de façon beaucoup plus large d'un point de vue sociétal.
Merci Adeline et Quentin pour cet entretien. Merci Juliette Radepont et Quentin Desmousseaux d'être venus décortiquer ce sujet avec nous. À suivre, Taxi Kebab avec le morceau Tabla avant de se retrouver pour le billet d'humeur de Camilla. سما بهتا وحبيبي كتنسى الحيط بيناتنا تنساني انا امنيتي هاني عرا الحجر الحيط تايف بارح كبر شروق بعدتي عليا كان خاصني نكون بوحدي من بعد تنساني حتى تفكر فيا سما بهتا وحبيبي كتنسى الحيط بيناتنا تنساني انا امنيتي هاني عرا الحجر الحيط تايف حتت قلبي فوق تبلك يتسناك حتى المرة اخرى واللي قاسها من البارح سما هبدا وحبيبي هدمت هاد الحيط بيناتنا ما تستحقني اسمح لي لا جدي لا جسمي ولا عيني قلبي محدود فوق الطبلة كيتسنى حتى المرة أخرى ولا قصة أكثر من البارح كان الحرب بيناتنا وجدك شي غير في بالي ملي كنت شوفو هادشي حبيبي وادعنا كان الحرب بيناتنا وجدك شي غير في بالي شوفوا هادشي حبيبي ودعنا سما بهتا وحبيبي كتنسى الحيط بيناتنا تنساني انا وشحال من مرة راه الحجر الحيط تايف بارح كبر شوف بعدتي عليا كان خاصني نكون بوحدي من بعد تنساني حتى تفكر فيا حتت جسمي فوق التبلة بين الغدا والعشا وليدتي شمتا كتر من البارح كاين حبر بيناتنا وجدك شي غير في بالي ملي كنت شوفو هادشي حبيبي ودعنا كاين حبر بيناتنا وجدك شي غير في بالي ملي كنت شوفو اش المشكلة اللي لي فات مشينا لهاد الحفلة مابقاش عاقلة هدرنا على هدوينا We'll be right back. Nous voici de retour pour la dernière partie de l'œil politique sur Prune 92 FM. Même si elle n'est pas présente en studio aujourd'hui avec nous, Camilla a pris le soin de nous déposer un petit billet d'humeur bien aiguisé comme elle sait le faire.
Critique, décalé, engagé. C'est le billet d'humeur de l'œil politique.
Après deux semaines de discussions intenses, les débats sur la réforme des retraites à l'Assemblée nationale ont pris fin vendredi dernier sur une douce note mélodieuse.
Personne n'a craqué ! Personne n'a craqué !
Oui bon, alors après avoir entendu un tel élan lyrique du ministre du Travail Olivier Dussopt, une seule question résonnait dans tous les esprits. Est-ce que quelqu'un lui a rendu ses mots croisés, s'il vous plaît ? Bah oui, quoi ? Olivier, il nous inquiète ! Le retrouver dans cet état après seulement deux semaines d'examen du projet de loi. Mais qu'est-ce que ça va être à 64 ans ? Comment il va pouvoir faire face à l'usure du travail s'il doit subir sa propre réforme, dont il a pourtant tenu à vanter les avantages jusqu'au bout ? Ah mais oui, c'est vrai que c'est justement pour ça qu'il a eu une dure quinzaine, Olivier, avec les autres membres du gouvernement. Après un mois d'annonces victorieuses dans les médias, leurs arguments chiffrés, calibrés, bétonnés en faveur de la réforme des retraites ont été mis à nu, comme dans un mauvais striptease où le leader des Chippendales s'assomme en plein milieu du show avec sa propre radio. Le Chippendale en question étant bien sûr la pension minimale des retraites à 1 200 €, en contrepartie des 2 ans à travailler plus, et promise à tous les retraités grâce à une revalorisation de 100 € pour les petites pensions. Sexy, ces fameux 1 200 € bruts. Jusqu'au moment où on s'est aperçu que l'argumentaire du gouvernement s'est révélé être aussi fiable et précis qu'un comptage de manifestants par le cabinet occurrence. Alors, on a l'habitude des politiques qui ont la petite manie d'insister sur le chiffre qui les avantagera le plus. Mais là, c'était tout simplement un gros mensonge, comme l'expliquait l'économiste Michaël Zemmour au micro de Léa Salamé. Car en réalité, ça concernera très peu de retraités qui toucheront en moyenne une revalorisation non pas de 100 € mais de 33 € pour les nouveaux retraités ou 56 € pour les anciens retraités. Et ça, ça change la donne. Après cette séquence, dans les médias, on est passé du striptease aguicheur au curling. Ouais, c'est un petit peu plus galère. Et à l'Assemblée nationale, on est carrément passé au match de boxe avec la bataille des chiffres menée par les députés de l'opposition. Sommés par plusieurs députés de révéler le véritable nombre de Français qui pourraient toucher les 1 200 € bruts, Olivier Dussopt a d'abord tenté d'esquiver en répondant qu'il n'avait pas de compte à rendre, ah bon, avant de finir par avancer, malgré lui, le chiffre de 40 000. Attention, petite subtilité à ne pas confondre avec les 40 000 euros d'action chez Total non déclarés que possède Yael Braun-Pivet, la présidente LREM de l'Assemblée nationale. On se concentre. Olivier Dussopt assure donc qu'il y aura 40 000 bénéficiaires chaque année, contre quand même un total de 5 millions de retraités pauvres aujourd'hui. Mais pas de temps mort. Le combat ne s'est pas arrêté là, avec l'entrée sur le ring du député PS Jérôme Gage, qui s'est improvisé enquêteur auprès de la direction de la Sécurité sociale.
Le chiffre précis qui a été communiqué est de 13 289 personnes qui bénéficieront de cette revalorisation à 100 €, c'est-à-dire 1,7% des retraités.
Et même, ce chiffre de 40 000 bénéficiaires est inconnu. On ne sait pas où Olivier Dussopt est allé le trouver. Voilà donc le ministre du Travail finalement mis KO et se contentant de jouer la montre jusqu'à la fin officielle des débats, nous offrant quand même une petite conclusion musicale. Allez, en attendant la grève générale du 7 mars, est-ce qu'on ne lui souhaiterait pas de retrouver un petit massage et ses chers mots croisés ?
Et voilà, ça devait arriver, c'est déjà la fin de votre émission L'œil politique. Merci à nos invités Juliette Radepont et Quentin Desmousseaux d'être venus partager ce moment avec nous.
Merci.
Merci.
Merci à toute l'équipe, Adeline et Quentin pour l'interview, Louise pour la carte blanche et la réalisation, Camilla pour son billet d'humeur, mais aussi à Yelena pour le choix des musiques. Une petite pensée aujourd'hui pour la mobilisation à Saint-Brévin en faveur du centre d'accueil des demandeurs d'asile. Soutenons aussi le journal Le Power qui a reçu des menaces de mort de la part de l'extrême droite. Nous espérons que vous viendrez nombreux et nombreux pour la grosse mobilisation du 7 mars afin de faire comprendre au gouvernement qu'on ne se laissera pas marcher sur les pieds. Nous nous retrouvons quant à nous samedi 25 mars pour la prochaine émission de midi à 13h. D'ici là, vous pouvez réécouter cette émission ainsi que les précédentes en podcast sur le www.prune.net. N'hésitez pas également à nous rejoindre sur Instagram. Et nous vous souhaitons un bon week-end.
C'était L'Œil politique. Retrouvez le podcast de l'émission sur prune.net.